Chapitre 17. Les arbres commençaient à bourgeonner. La mer était encore couronnée d'écume, mais ses vagues n'allaient pas tarder à se calmer. Ce serait le printemps et le moment où Ulysse remonterait sur son navire. Il fendrait les eaux, virant de bord entre les tempêtes et la grande main de Poséidon, les yeux rivés vers son foyer. Et mon île redeviendrait silencieuse. Toutes les nuits, je restais allongée à ses côtés à la lueur de la lune. Je m'imaginais en train de lui dire « Encore une saison, seulement jusqu'à la fin de l'été, c'est là que les meilleurs vents soufflent. » Cela le surprendrait. J'apercevrais une légère pointe de déception dans son regard. Les sorcières dorées ne sont pas censées supplier. Je laissais l'île plaider ma cause à ma place, utilisant sa beauté éloquente. Tous les jours, les pierres perdaient un peu de leur froideur glacée et les fleurs s'épanouissaient. Nous faisions des pique-niques sur l'herbe verte, marchions sur le sable réchauffé par le soleil dans la vive lumière du jour. Je l'emmenais à l'ombre d'un pommier pour que son parfum l'enveloppe pendant sa sieste. Je déroulais toutes les merveilles d'Éa comme un tapis devant lui et je vis qu'il hésitait. Ses hommes le voyaient aussi. Il y avait 13 ans qu'il vivait avec lui et même si ses pensées tortueuses dépassaient généralement leur entendement, il sentait un changement, comme les chiens de chasse sentent les humeurs de leur maître. Jour après jour, leur agitation grandit. « Ithaque !» disait-il tout haut à la moindre occasion. « La reine Pénélope, Télémaque !» Eurylope arpentait ma maison en me jetant des coups d'œil furieux. Je le vis chuchoter dans les coins avec les autres. Quand je passais, il se taisait brutalement en baissant la tête. Seul ou par pair, il s'approchait sournoisement d'Ulysse. J'attendais qu'il les renvoie, mais ils se contentaient de fixer un point dans le vide par-dessus leur épaule, dans l'air poussiéreux du crépuscule. « J'aurais dû les laisser à l'état de cochon, » regrettai-je intérieurement. Frère de la mort est le nom que les poètes donnent au sommeil. Pour la plupart des hommes, ces heures sombres constituent un rappel de l'immobilité qui les attend à la fin de leur jour. Mais celui d'Ulysse ressemblait à sa vie, remuant et agité, empli de murmures qui faisaient se dresser les oreilles de mes loups. Je l'observais dans cette aube grise et perlée de printemps. Les tremblements qui parcouraient son visage, la tension de ses épaules crispées par l'effort. Il tordait les draps comme s'il s'agissait d'adversaires à vaincre lors d'une joute de lutte. Bien qu'il ait coulé des jours paisibles pendant 1 an avec moi, il partait toujours en guerre toutes les nuits. Les volets étaient ouverts. Il avait dû pleuvoir pendant la nuit. L'air qui entrait paraissait comme lavé, très pur. Chaque son, les trilles des oiseaux, les feuilles qui bruissaient, le chant étouffé des vagues, restait suspendu dans l'atmosphère comme celui d'un carillon. Une fois habillé, je suivis ces bruits glorieux dehors. Les hommes d'Ulysse dormaient encore. Elpénor était sur le toit, emmitouflée dans l'une de mes meilleures couvertures. Autour de moi, le vent soufflait, pareil à la cascade de notes d'une lyre, et ma propre respiration semblait lui faire écho. Une goutte de rosée tomba d'une branche. Elle frappa la terre telle une cloche qui tinte. Je sentis ma bouche s'assécher. Il sortit de mon buisson de laurier. Chaque ligne de son corps était exquise, d'une grâce parfaite. Ses cheveux foncés, détachés, étaient surmontés d'une couronne. À son épaule pendait un arc brillant aux extrémités d'argent, sculpté dans du bois d'olivier. « Circé !» m'apostropha Apollon, et ce son fut encore plus harmonieux que les autres. Toutes les mélodies du monde lui appartenaient. Il leva une main élégante. « Mon frère m'a averti à propos de ta voix. » Je crois qu'il serait préférable que tu parles le moins possible. » Ces paroles ne recelaient aucune méchanceté. Ou peut-être était-ce ainsi que sonnait la méchanceté dans ses tonalités parfaites. « Je refuse d'être réduite au silence sur ma propre île. » Il grimaça. « Hermès m'avait prévenu que tu étais difficile. Je suis porteur d'une prophétie pour Ulysse. » Je sentis que je me raidissais. Les énigmes olympiennes étaient toujours à double sens. « Il est à l'intérieur. »« Oui, je sais. » Le vent me gifla la figure. Je n'eus pas le temps de crier. Il s'engouffra dans ma gorge, se frayant brutalement un passage jusqu'à mon ventre, comme si on m'avait fourré le ciel tout entier dedans avec un entonnoir. J'eus un haut le cœur, mais sa force croissante continua de se déverser en moi, me coupant la respiration, me noyant sous son pouvoir étranger. Apollon étudiait la scène d'un air aimable. La clairière de l'île disparut d'un coup. Ulysse était debout sur une côte rocheuse, entourée de falaises abruptes. Au loin, on distinguait des chèvres et des oliveraies. Je vis une maison aux vastes pièces, à la cour pavée, aux murs brillants des armes ancestrales qui y étaient accrochées. Ithaque. Ensuite, Ulysse se tint sur un autre rivage, du sable sombre sous un ciel qui ne voyait jamais la lumière de mon père. Des peupliers baignés d'ombre se dressaient, et des saules laissaient tremper leurs feuilles dans l'eau sale. Aucun oiseau ne chantait, aucune bête ne bougeait. Je reconnus tout de suite ce lieu, même si je n'y étais jamais allé. Une large grotte béait, et dans son ouverture se tenait un vieil homme aux yeux aveugles. J'entendis son nom résonner dans mon esprit. Tirésias. Je me précipitai sur mes plates-bandes. Grattant la terre, j'arrachai des racines de molly, puis en fourrai quelques-unes dans ma bouche, avec le terreau brun qui s'y accrochait encore. Le vent cessa immédiatement, mourant aussi vite qu'il était venu. Je toussai, le corps entier saisi de tremblements, un goût de vase et de cendre dans la bouche. Je me remis péniblement à genoux. « Tu oses, » tempêtai-je. « Tu oses abuser ainsi de moi sur ma propre île ? J'ai du sang titan. Ceci va déclencher la guerre. Mon père ! C'est ton père qui l'a suggéré. Mes messagers doivent avoir la prophétie dans le sang. Tu devrais te sentir honoré, reprit-il, d'avoir porté une vision d'Apollon. » Sa voix était comme un hymne. Son beau visage révélait juste la plus légère des surprises. J'eus envie de le labourer avec mes ongles. Les dieux et leurs règles incompréhensibles. Ils avaient toujours une bonne raison de vous obliger à vous agenouiller devant eux. Je ne dirai rien à Ulysse. C'est le cadet de mes soucis. La prophétie a été délivrée. Il avait disparu. J'appuyai mon front sur le tronc ridé d'un olivier. Ma poitrine se soulevait avec effort. Je tremblais de rage et d'humiliation. Combien de fois devrais-je apprendre cette leçon ? Chacun de mes moments de paix était un mensonge, car il ne dépendait que du bon plaisir des dieux. Peu importe ce que je faisais et combien de temps je vivrais, au moindre caprice, ils pourraient toujours tendre le bras et disposer de moi à leur guise. Le ciel n'était pas encore tout à fait bleu. À l'intérieur, Ulysse dormait toujours. Après l'avoir réveillé, je le conduisis dans la pièce principale. Je ne lui révélai pas la prophétie. Pendant qu'il mangeait, je polissais ma rage comme s'il s'agissait de la pointe d'un couteau. Je voulais la garder affûtée aussi longtemps que possible, parce que je savais ce qui viendrait ensuite. Dans la vision, il était rentré à Ithaque. Mes maigres espoirs s'étaient envolés. Je sortis mes plus jolis plats, entamai mon plus vieux vin. Cependant, rien n'avait plus de saveur. Il avait l'air absent. Toute la journée, il s'était retourné pour regarder par la fenêtre comme si quelqu'un allait venir. Nous conversions poliment, mais je sentais qu'il attendait que ces hommes terminent leur repas et aillent se coucher. Une fois que la dernière de leurs voix se fut éteinte, il s'agenouilla. « Déesse, » dit-il. Il ne m'appelait jamais ainsi, et je compris tout de suite. Je compris pour de bon. Peut-être une divinité était-elle aussi venue le trouver. Peut-être avait-il rêvé de Pénélope. Notre idylle était terminée. Je contemplai ses cheveux entremêlés de gris. Ses épaules étaient tendues, ses yeux baissés. Je ressentis une colère sourde. Il aurait au moins pu me regarder en face.
« Qu'y a-t-il, mortel ?»
Ma voix était sonore. Mes lions s'agitèrent.
Il faut que je parte. Je suis resté trop longtemps. Mes hommes sont impatients. Alors pars. Je suis ton hôtesse, pas ta geôlière.
Cette fois-ci, il me regarda.
Je sais, madame. Je t'en suis immensément reconnaissant. Ses prunelles étaient aussi brunes et chaudes que la terre en été. Ses mots étaient simples. Il n'avait rien d'habile, ce qui était bien sûr en soi une forme d'habileté. Il avait toujours su se montrer sous son meilleur jour. Ce fut une sorte de vengeance de lui répondre. « J'ai un message des dieux pour toi. »
« Un message ?»
Son expression se teinta de méfiance. « Ils disent que tu arriveras jusque chez toi. Mais d'abord, ils t'ordonnent de parler au prophète Tirésias dans la maison des morts. » Aucun homme saint d'esprit ne pourrait accueillir une telle nouvelle sans trembler. Il s'était figé, soudain d'une pâleur crayeuse.
« Pourquoi ?»
« Les dieux ont leur raison, qu'ils n'ont pas cru bon de partager. »
« Tout cela ne finira donc jamais. »
Sa voix était enrouée. Son visage ressemblait à une blessure qui se serait rouverte. Ma colère s'évapora. Il n'était pas mon adversaire. Sa route serait suffisamment dure sans le mal que nous pourrions nous faire. Je touchai sa poitrine, là où battait son cœur vaillant de capitaine. « Viens, je ne vais pas t'abandonner. » Je l'emmenai dans ma chambre et là, je lui transmis le savoir qui avait monté en moi toute la journée, très vite et sans interruption, pareil aux bulles d'un ruisseau. Les vents t'emporteront au-delà des terres et des mers jusqu'aux confins du monde des vivants. Là-bas, il y a une grève avec un bosquet de peupliers noirs et des eaux sombres et calmes où trempent les feuilles des saules pleureurs. C'est l'entrée des enfers. Creuse-y une fosse à la profondeur que je t'indiquerai. Remplis-la du sang d'une brebis et d'un bélier noir, et verse des libations tout autour. Les ombres affamées vont affluer. Elles sont désespérément avides de cette vie fumante, après tout ce temps passé dans l'obscurité. Il avait les yeux clos. Peut-être imaginait-il ces âmes qui arrivaient en masse de leur salle grise. Il en connaîtrait certaines, Achille et Patrocle, Ajax, Hector. Tous les Troyens qu'il avait tués, et tous les Grecs aussi, ainsi que son équipage qui s'était fait dévorer, qui crierait encore justice. Mais ce ne serait pas le pire. Il y aurait aussi des âmes dont il ne pourrait pas prédire la présence. Celles de chez lui qui seraient mortes en son absence. Peut-être ses parents, ou Télémaque. Peut-être Pénélope elle-même. Tu dois les empêcher de boire le sang jusqu'à l'arrivée de Tirésias. Il en absorbera son content, puis te transmettra sa sagesse. Ensuite, tu reviendras ici, mais seulement pour une journée, et je pourrai sans doute encore te fournir de l'aide. » Il acquiesça. Ses paupières étaient grises. Je lui touchai la joue. « Dors, tu en auras besoin. »
« Je ne peux pas, » répondit-il.
Je comprenais. Il se préparait, rassemblant ses forces pour se battre encore une fois. Nous restâmes allongés l'un près de l'autre, veillant silencieusement durant les longues heures de cette nuit. À l'aube, je l'aidai à s'habiller. De mes propres mains, je lui attachai sa cape autour des épaules. Je bouclai sa ceinture et lui donnai son épée. En ouvrant la porte d'entrée, nous découvrîmes Elpénor étalé de tout son long sur les dalles de pierre. Il avait fini par tomber de mon toit. Nous fixâmes ses lèvres bleuâtres, le vilain angle de son cou.
« Ça commence déjà. »
La voix d'Ulysse était résignée et sombre. Je savais ce qu'il voulait dire. Les parques l'avaient repris sous leurs joues. « Je vais le garder en attendant. Nous n'avons pas le temps d'organiser des funérailles. » Nous portâmes le corps sur l'un de mes lits, enveloppé dans un drap. J'apportai des réserves pour son voyage, les moutons dont il avait besoin pour le rite. Le bateau était déjà prêt. Ces hommes l'avaient équipé plusieurs jours auparavant. Ils le chargèrent, puis le poussèrent dans les vagues. La mer était froide et agitée, l'air mouillé d'embrun. Ils allaient devoir se battre pour parcourir chaque lieu, et le soir, ils auraient les épaules courbattues. J'aurais dû leur donner des pommades contre cela, songeai-je. C'était trop tard. Je regardais le navire gagner péniblement l'horizon, avant de rentrer retirer le drap qui recouvrait le corps d'Elpénor. Les seuls cadavres que j'avais déjà vus étaient ceux qui avaient gît sur le sol de ma maison, brisés et dépouillés de leur forme humaine. Je lui touchai la poitrine.
Elle était dure et froide. J'avais entendu dire que dans la mort, on paraissait plus jeune. Mais Elpénor riait souvent et, privée de l'étincelle de la vie, ses traits étaient ridés et relâchés. Je le lavais, appliquais des huiles sur sa peau avec autant de soin que s'il pouvait encore sentir mes doigts. En travaillant, je chantais une mélodie destinée à tenir compagnie à son âme pendant qu'il attendait de traverser la grande rivière menant aux enfers. Je l'enveloppais de nouveau dans son suaire, prononçais un charme pour éloigner la pourriture et refermais la porte derrière moi.